بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Explication ou commentaire autour du 9e hadith rapporté par Abu Huraira. Et on aura quelques mots à dire autour de ce compagnon important. عن أبي هريرة عبد الرحمن ابن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم. Abu Huraira Abdurrahman ibn Sakhr a dit: j'ai entendu le prophète de Dieu, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, dire: quand je vous interdis de faire quelque chose, éloignez-vous-en. Et quand je vous ordonne de faire quelque chose, faites-le dans la mesure de vos possibilités. Ceux qui vous ont précédés sont tombés dans la perdition seulement à cause de l'abondance de leurs questions et leur opposition à leur prophète. Hadith authentique rapporté par Bukhari et Muslim. Alors, le rapporteur Abu Huraira, c'est l'un des personnages, l'un des compagnons les plus illustres, les plus connus et les plus dignes d'admiration dans l'histoire de l'islam. Alors, il s'est converti tardivement en l'année 7 après l'Hégire, c'est-à-dire 3 ans à peu près avant la mort du prophète. Donc il aurait vécu combien de temps auprès du prophète pour profiter de sa science, de ses paroles? 3 ans. Et pourtant, c'est le plus grand rapporteur de traditions prophétiques. On en recense 5374, donc 5374 paroles prophétiques qu'il avait en mémoire et qu'il a transmis à qui? Eh bien, aux compagnons ou à ses élèves qui n'ont pas connu le prophète. Alors, 5374 qu'il a en mémoire et qu'il a enseigné, mais sachez qu'il n'a pas tout divulgué. Pourquoi? Et pourtant, le prophète a dit: vous vous devez de transmettre ce que vous avez entendu. Pourquoi a-t-il caché une partie des paroles du prophète? Il s'est justifié, il a dit: j'ai reçu du prophète deux types de savoir. L'un, je vous l'ai transmis. Quant à l'autre, si je vous l'enseignais, je me ferais trancher la tête. C'est-à-dire qu'il a caché une partie de la, une certaine science qui était peut-être néfaste pour les gens de son époque. Donc il a considéré que certains hadiths, il ne fallait pas les dire aux gens parce que ça allait les perturber, ils n'allaient pas le croire, ils allaient le démentir, etc. Notamment, bon, c'est pas, je prends pas l'exemple ici de Abu Huraira, mais d'un autre compagnon à qui le prophète alayhi salam a révélé le nom des hypocrites, c'est-à-dire de certains hommes qui étaient musulmans en apparence, mais qui, dans leur fort intérieur, détestaient l'islam, c'était des espions, des ennemis. Et le prophète les connaissait. Dieu lui a dit: un tel est un hypocrite. Et il a fait part de ces informations à un compagnon. Et ce compagnon les a gardés secrets. Parce qu'effectivement, s'il se met à révéler l'identité des hypocrites, ça va créer une zizanie, peut-être une rébellion. Donc, il a caché ça. D'accord? Donc, toute vérité n'est pas bonne à dire. Toute vérité n'est pas forcément bonne à dire. Il faut toujours mesurer la conséquence de ses propos. Le prophète était comme ça, et ses compagnons le suivaient dans cette méthodologie. Alors, Abu Huraira, avant l'islam, avant qu'il n'embrasse l'islam, il avait un nom. C'était Abdushams. le serviteur ou l'adorateur du soleil. Voilà comment il s'appelait, c'était un nom païen. Le prophète Ali Salam a changé son nom, parce que son nom n'est pas conforme à quoi ? À l'esprit de l'islam. C'est même une hérésie. En islam, on adore exclusivement que notre créateur, Dieu, et non pas une créature comme le soleil. Et comment l'a-t-il surnommé, ou comment, en quoi a-t-il changé son nom ? Abdou Ar-Rahman, le serviteur, l'adorateur de qui ? De Ar-Rahman, le miséricordieux. Donc le créateur finalement. Donc il a changé son nom, Abdurrahman. Et c'était une habitude chez le prophète. Lorsqu'un nom n'était pas compatible avec l'islam, il le changeait. Et parfois, ce nom-là ne faisait pas référence à quelque chose qui ne serait pas conforme à l'orthodoxie de l'islam, mais simplement quelque chose qui renvoie à des idées péjoratives, négatives. Comme un compagnon qui s'appelait Harb, la guerre. Et il a changé son nom. Parce que, oui, la guerre, elle existe, mais ça ne fait pas partie de notre philosophie, nous musulmans. C'est une exception, on ne s'appelle pas la guerre. On s'appelle la paix, oui, mais pas la guerre. Et il lui a donné un surnom. Abu Huraira. D'ailleurs, il est plutôt connu sous son surnom. Qu'est-ce que ça veut dire, Abu Huraira ? Ça veut dire celui qui a une petite chatte. Parce qu'effectivement, Abu Huraira avait un animal de compagnie, c'était un petit chat, une petite chatte, d'ailleurs qu'il mettait dans sa manche, hein, qu'il était dans sa manche, donc il se promenait avec, c'était son animal de compagnie. Voilà. Également, le prophète Ali Salam avait un amour particulier pour ce compagnon Abu Huraira. Parce que déjà sa situation sociale n'était pas enviée, il faisait partie des gens les plus pauvres à Médine, il faisait partie de ce qu'on appelle Ahlus-Sufra ou Ahlus-Suffa, c'est-à-dire ceux qui habitaient, qui logeaient, qui étaient en fait accueillis dans un espace à l'arrière de la mosquée prophétique à Médine. Ils avaient un espace propre à eux, où ils étaient logés, nourris, et quand il y avait des sadaqat, hein, des aumônes, on leur donnait. Donc ils étaient accueillis dans la mosquée, on leur faisait hospitalité. Il en faisait partie. Donc il n'avait pas de travail, il n'avait peut-être pas de famille, hein, puisqu'il était dans cet endroit, dans la mosquée. Et c'est ce qui lui a permis de côtoyer le prophète de très près. Il était présent dans la mosquée, donc il assistait à tous les sermons, à tous les cours, mais en plus il voulait être proche du prophète, il l'accompagnait. C'est pour ça qu'il a entendu beaucoup de ses paroles. Et le prophète a fait trois invocations en sa faveur. L'une pour que nous l'aimions. Il a demandé à ce que les gens aiment Abu Huraira. Et on l'aime. Deuxièmement, il a demandé à ce que Dieu mette la bénédiction ou plutôt, il a demandé à ce que sa mère se convertisse à l'islam. Parce que Abu Huraira, quand il rentrait chez lui, quand il embrassait l'islam, et il rentrait chez lui, je confonds avec Abu Bakr. Ça c'est une autre histoire, hein, où Abu Bakr Siddiq s'est converti à l'islam, hein, à la Mecque. Et sa mère insultait le prophète, et ça lui faisait mal. Et le prophète a demandé à Dieu à ce que sa mère soit guidée. Non, ici, Abu Huraira a demandé au prophète, et le prophète a demandé à Dieu de la guider. Et un jour, il est retourné chez lui, peut-être même suite à l'invocation du prophète, qui était exaucée, peut-être même immédiatement, d'après mes souvenirs. Et avant de rentrer, sa mère lui a dit « Reste ici ». Ne rentre pas, car je suis en train de me laver, le lavage rituel, car j'ai embrassé l'islam. Donc il a été très content que sa mère ait partagé la religion de l'islam, qu'il considérait être la vérité. Et ensuite, la troisième invocation, c'est celle qui concerne sa mémoire. Le prophète a demandé à ce que Dieu lui donne une mémoire infaillible. ou une mémoire, si vous voulez, hors du commun, extraordinaire. Et effectivement, pour retenir 5374 paroles du prophète et les rapporter, c'est pas donné à tout le monde. Donc il avait une excellente mémoire. Et d'ailleurs, c'était la règle chez les Arabes. Ils étaient de tradition orale. Et puis ils connaissaient des milliers de vers de poésie. C'était normal qu'un arabe connaisse des centaines de vers de poésie. Donc ils avaient déjà, les Arabes à l'époque, une bonne mémoire. Mais lui, tout particulièrement. Abu Huraira, donc, était un homme que tout le monde aimait. Et Aïcha l'appréciait tellement, la femme, l'épouse du prophète, la mère des croyants, qu'elle a demandé à ce que ça soit lui qui dirige sa prière funéraire. Donc, quand elle est décédée, notre mère Aïcha, c'est Abu Huraira qui a dirigé la prière funéraire. D'accord? Et c'était un spécialiste de la Torah. Abu Huraira était un spécialiste de la Torah. Il connaissait, donc il connaissait sûrement l'hébreu, et en plus il maîtrisait les textes religieux juifs. Et c'était présent chez les Arabes, chez les musulmans. Le prophète a.s. a demandé à Zayd ibn Thabit, un compagnon jeune, un adolescent, il lui a dit: va apprendre l'hébreu, afin que nous prenions connaissance des textes religieux juifs et qu'on puisse les étudier et savoir ce qui est écrit dedans. Notamment, il était écrit dans la Torah à l'époque, puis maintenant, puisqu'elle a été changée au cours du temps, il y avait l'annonce du dernier des prophètes. Il était décrit par son aspect physique et son aspect moral. Donc ça, c'était présent dans la Torah. Et certains compagnons ont pu le vérifier de leurs yeux en lisant la Torah. Et Zayd ibn Thabit a appris l'hébreu en 15 jours. En 15 jours, il a maîtrisé cette langue. Il est revenu chez le prophète, il a dit: c'est bon, je maîtrise l'hébreu. Donc le prophète, alayhi salam, on en tire comme enseignement qu'il voulait s'ouvrir aux autres cultures, aux autres religions, et qu'il voulait avoir des échanges avec eux. Et également, il poussait ses compagnons, non pas simplement à acquérir la science religieuse, mais aussi d'autres sciences utiles, qui ne sont pas forcément religieuses, mais profanes. Et Abu Huraira, c'est l'un aussi des personnages dans l'histoire islamique qui est le plus critiqué. Pourquoi? Parce que si on critique Abu Huraira et on sème le doute quant à son intégrité ou à sa capacité de mémoriser les paroles du prophète, forcément, on va mettre de côté beaucoup de traditions prophétiques. Et c'est ce qu'ont fait les chiites, puisqu'ils considèrent que Abu Huraira est en partie égaré, est en partie un imposteur, et que sa mémoire finalement n'est pas si infaillible que ça. Et ils disent: comment en 3 années il a pu mémoriser autant de paroles du prophète, alors que des gens ont vécu à ses côtés plus de 10 ans, plus de 15 ans. Donc c'est une porte ouverte finalement ébranler la sunna. Et ce sont aussi des arguments qui ont été récupérés par certains orientalistes pour critiquer l'islam, notamment la sunna, la tradition prophétique. Des critiques qui étaient d'abord qui ont été proférées par d'abord les chiites. Intéressons-nous maintenant à la parole du prophète alayhi salam. Abu Huraira Abdurrahman ibn Sakhr donc dit: j'ai entendu le prophète dire: quand je vous interdis de faire quelque chose, éloignez-vous-en. Et quand je vous ordonne de faire quelque chose, faites-le dans la mesure du possible. Donc ça, c'est une première partie qu'on va essayer d'expliquer. Et la deuxième partie, on la laisse pour une prochaine fois. Donc ici, quand je vous interdis de faire quelque chose, qui parle? C'est le prophète. Donc ici, le prophète dit: quand moi, prophète, je vous interdis et je vous ordonne. Autrement dit, le prophète de lui-même peut interdire et peut ordonner. Et ça fait partie de quoi? De ses fonctions en tant que prophète. C'est un législateur. Il peut interdire et ordonner de lui-même, mais quand on dit de lui-même, en fait, c'est pour dire ce n'est pas présent dans le Coran. Mais quand on dit de lui-même, il n'invente rien. Tout ce qu'il dit, c'est une révélation de Dieu. Simplement, c'est une révélation indirecte. Ou si vous voulez, c'est une intuition. Quand le prophète parle, il peut ordonner ou interdire, mais il est toujours sous le regard de Dieu. C'est-à-dire que ce qu'il va dire sera toujours conforme à ce que Dieu veut, à sa volonté. Parce que déjà, il y a une intuition divine, ou une révélation parfois, et puis c'est le prophète. Donc parfois il ordonne, il interdit, parce qu'il est là entre les hommes, il sait ce qui est mauvais et ce qui est bon. Donc le prophète alayhi salam peut interdire de lui-même et peut ordonner. Donc on ne peut pas dire le Coran nous suffit, on n'a pas besoin de la sunna. Ce n'est pas possible, parce que si on met de côté la tradition prophétique, on va mettre de côté des interdits et des obligations. Tout n'est pas dans le Coran. Et ce thème, ou plutôt cette question, on la développera un peu plus la prochaine fois, parce qu'elle mérite un peu plus de développement, puisque aujourd'hui, et ça ne date pas d'aujourd'hui, ce sont des choses qui ont été soulevées par les savants, mais aussi par certaines personnes, on va dire, certaines sectes, qui ont essayé de mettre de côté la sunna et de dire seul le Coran est infaillible, seul le Coran est sûr, la sunna elle est douteuse puisqu'elle est rapportée par des hommes et ces hommes peuvent se tromper. Donc on va essayer de défendre, prendre la défense de la sunna ou montrer qu'elle est autant importante que le Coran la fois prochaine. D'accord ? Et ça sera notamment un message adressé à certaines personnes aujourd'hui qui entendent sur internet des thèses ou des propos par ce qu'on appelle al-Qur'aniyoun, c'est-à-dire ceux qui se réclament simplement du Coran. Il y en a certains aujourd'hui, ils font partie de certaines sectes qui disent on se suffit du Coran et on met de côté la sunna, la tradition prophétique. Ce qui nous intéresse maintenant, tout de suite, c'est quand je vous interdis de faire quelque chose, éloignez-vous-en, et quand je vous ordonne de faire quelque chose, faites-le dans la mesure du possible. Là, vous avez dans le style du prophète, dans ses propos, une différence. La logique voudrait que le prophète dise, quand je vous interdis de faire quelque chose, éloignez-vous-en, et quand je vous ordonne de faire quelque chose, appliquez-le. Mais il n'a pas dit appliquez-le. Il a dit faites-le dans la mesure du possible. Donc dans l'obligation, il a dit dans la mesure de vos capacités, si vous le pouvez. Et dans l'interdit, il n'a pas dit ça. Il a dit délaissez-le, éloignez-vous-en. Comme si on peut, c'est toujours dans notre possibilité de délaisser l'interdit. Mais que l'obligatoire, parfois, on va avoir du mal à l'accomplir. C'est ça que sous-entend le prophète. Ou en tout cas, c'est une allusion, n'est-ce pas? Effectivement, les interdits... Alors, ça veut dire ça, mais ça veut dire aussi que, en islam, l'insistance sur les interdits est beaucoup plus grande que l'insistance sur les obligations. C'est-à-dire qu'il va y avoir plus de dérogations, de facilité dans les pratiques religieuses, il va y avoir moins de commodité dans les interdits. Pourquoi ? Parce que l'interdit, il mène à quelque chose de mauvais. Il a des conséquences nuisibles. Donc, on ne joue pas avec ça. Tandis que l'obligatoire, il a des conséquences positives, il y a un intérêt derrière. Et cet intérêt, il n'est pas toujours vital. Comme la prière. Et d'ailleurs, nous, on va s'intéresser au cas de la prière. Hein, pour bien expliquer ce que veut dire quand je vous ordonne quelque chose, faites-le dans la mesure du possible, on va prendre le cas de la prière. Aujourd'hui, dans notre contexte qui est celui du pays où on vit. D'accord ? Donc on va prendre la prière comme cas d'application. Alors, l'interdit, le prophète a dit « éloignez-vous-en ». Il n'a pas dit « ne le transgressez pas ». Il n'a pas dit « délaissez-le ». Il a utilisé « fajtanibouh »« écartez-vous-en ». Et s'écarter de l'interdit, c'est plus que le braver ou l'outrepasser. Quand je te dis « ne mets pas ta main dans le feu », c'est un interdit. Je dis à mon fils « surtout ne mets pas ta main dans le feu ». C'est un interdit. Mais je peux très bien lui dire « éloigne-toi du feu ». C'est pas pareil. Quand je lui dis « éloigne-toi du feu », c'est-à-dire « ne t'approche même pas du feu ». C'est pas « ne mets pas ta main ». T'en approcher, c'est déjà braver l'interdit. Donc ici, c'est comme si Dieu voulait nous dire « n'attendez pas d'être proche de l'interdit pour vous en écarter, mais mettez entre vous et l'interdit une distance ». C'est-à-dire « ayez des mesures préventives ». Prendre des précautions dans l'interdit. Et ça, c'est quelque chose que vous retrouvez dans l'islam. C'est aussi une philosophie dans la législation islamique. C'est que, et je vous donne un exemple concret et simple, trouvez-vous logique d'interdire à votre enfant de manger un beau et bon gâteau qui est sur la table et en même temps vous le mettez assis devant ce gâteau? Si vous voulez que votre enfant ne mange pas le gâteau, qu'est-ce que vous faites? Vous le changez de pièce. Vous ne le mettez pas devant vos yeux. Vous faites en sorte de le cacher. N'est-ce pas? Parce que s'il le voit, il le sent, il va être attiré. Il va être tenté. En islam, c'est la même chose. Pour ne pas tomber dans l'interdit, Allah et son prophète vont mettre des précautions. Des mesures préventives. Et c'est ce qu'on fait aussi dans le cas de la maladie. On n'attend pas de tomber malade pour se guérir, mais on se vaccine. Ou bien, on prend nos précautions. Je sais que dehors il fait froid, je me couvre bien pour ne pas tomber malade. Je vous donne un exemple. Un interdit qui est de boire l'alcool. Boire l'alcool, c'est un interdit en soi, parce qu'il mène bien souvent à l'ébriété, à l'ivresse, et vous savez que l'ivresse, l'ébriété, c'est la porte ouverte pour la violence familiale, battre ses enfants et sa femme, pour dire des choses qu'on ne dirait pas en temps normal, pour voler, pour les accidents de la route, et je ne sais trop quels malheurs qui peuvent découler de quoi? De l'ivresse. Donc pour éviter que le musulman ne boive de l'alcool, qu'est-ce qu'ont fait Dieu et son prophète? Ils ont mis des garde-fous, des mesures préventives. Ne vous asseyez pas dans une assemblée où les gens boivent de l'alcool. Ne transportez pas l'alcool, ne vendez pas l'alcool, n'achetez pas l'alcool. C'est-à-dire écartez-vous, éloignez-vous de l'alcool. Parce que c'est pas à pas qu'on tombe dans l'interdit. Et Dieu a dit, ne suivez pas les pas du diable. C'est-à-dire que effectivement le diable, c'est pas d'un coup qu'il te fait tomber dans l'interdit, mais il t'attire, pas à pas, il t'attire vers l'interdit. Donc pour éviter la consommation d'alcool, Dieu et son prophète ont interdit d'autres choses, mais par prévention. Même chose pour la fornication. La fornication, c'est-à-dire les relations sexuelles hors mariage. Dieu dans le Coran a dit « Wala taqrabu zina » « Ne vous approchez pas de la fornication ». Il n'a pas dit « délaissez la fornication ». Il a dit « Ne vous approchez pas ». Et effectivement, comment Dieu et son prophète, qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour éviter que l'on tombe dans la fornication? Baissez votre regard. Baisser son regard, c'est une mesure préventive. Contre quoi? Contre la fornication. Parce que on sait très bien que ça commence par un regard, par une discussion, par un échange de numéros, par un rendez-vous, par une sortie dans un endroit en secret, et puis ensuite ça va à l'interdit même. La fornication. Donc ça, c'est quelque chose de présent dans la religion et c'est une méthodologie à voir. Quand il y a un interdit, il faut prendre ses précautions et s'en écarter le plus possible. Et même chose dans les interdits de la langue. Par exemple, accuser une personne sans preuve, c'est un interdit en islam. Parce que l'honneur est sacré. On n'accuse pas une personne sans preuve. Et bien, pour éviter que les musulmans, les croyants s'accusent mutuellement sans fondement, Allah Azza wa Jal et son prophète nous ont demandé de penser du bien de la personne. Ils nous ont demandé de vérifier les informations que l'on reçoit. Ô vous qui portez la foi, si une personne douteuse vient vous apporter une information grave, alors vous devez en vérifier la teneur pour ne pas tomber dans quoi? Dans l'accusation sans fondement. Et le prophète a dit dans un hadith, il suffit comme mal, comme mensonge, il suffit, ou c'est déjà un mensonge, que de répéter tout ce que l'on entend. Donc arrête de colporter tout ce que tu entends, parce qu'au final tu vas colporter des rumeurs, des accusations mensongères. Donc pour éviter de tomber dans l'accusation mensongère, sans fondement, sans preuve, on va prendre des précautions. Vérifier les infos qui nous arrivent, mais aussi ne pas tout répéter, ne pas colporter tout ce que l'on entend. Et ensuite, ça c'est par rapport à l'interdit. Venons-en à l'obligatoire, à l'obligation religieuse. Ce que je vous ai ordonné, faites-le dans la mesure du possible. Et ça c'est un principe en islam. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Dieu n'impose à une personne que ce qui est dans sa capacité, que ce qu'elle peut accomplir. Donc ce qui est au-delà de tes forces, de ta force, tu ne peux pas l'accomplir, tu seras pardonné. Mais attention ici, certains vont utiliser cette parole pour justifier le fait qu'ils ne prient pas. Oui, parce que la prière, selon eux, c'est au-delà de mes forces, je suis empêché de prier, et le prophète a dit... Accomplissez l'obligation, c'est-à-dire la prière, tant que vous le pouvez, ou dans la mesure du possible. Et certains vont prendre cette parole pour justifier un laxisme. Mais ici, le prophète, au contraire, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu dois faire ton possible, c'est-à-dire tu dois faire des efforts. Donc tu n'as pas d'emblée, tu n'as pas à baisser les bras. Tu dois d'abord faire l'effort, et quand tu as fait tes efforts et que tu sens que tu ne peux pas, là tu es pardonné. Mais si tu n'as pas fait l'effort, alors tu n'as pas fait ce qu'a dit le prophète. Puisqu'il a dit, accomplissez l'obligatoire dans la mesure du possible. C'est-à-dire, faites votre possible et ensuite vous serez pardonné. Et nous, on va s'intéresser à la prière. Alors, la prière, vous savez que c'est un pilier dans la religion, que c'est la première chose sur laquelle nous allons être interrogés le jour de la résurrection. Et le prophète a dit, si ça se passe bien pour la prière, tout le reste sera facile. Et si ça se passe mal quant à la prière, quand Dieu va nous juger si vos prières sont mal accomplies ou pas accomplies du tout, le reste sera très difficile, puisque c'est la base, le fondement dans la religion. Mais c'est un constat indéniable, il est difficile de prier aujourd'hui, quotidiennement, à l'heure, et comme cela nous est demandé. Vous avez deux paramètres, prier à l'heure et prier comme cela nous est demandé, c'est-à-dire la forme. Vous avez le moment, l'horaire, et vous avez la forme. D'accord? Donc, ça c'est quelque chose, c'est un vécu hein, de tout le monde. On a tous rencontré à un moment donné dans notre vie où on continue à rencontrer des difficultés pour prier, notamment parce qu'on travaille, on va à l'école, et puis les occupations de la vie, et puis certaines situations particulières. Par exemple, une personne qui aurait une occupation importante, un rendez-vous important, une personne qui serait dans les transports, une personne qui serait en prison. Donc vous avez des cas fréquents ou des cas exceptionnels où effectivement il nous est difficile de prier à l'heure et comme cela nous est demandé, c'est-à-dire de manière complète. La question c'est, pourquoi rencontre-t-on des difficultés à prier et comment faire? Y a-t-il dans notre religion une souplesse? Y a-t-il dans notre religion des dérogations, des dispenses? Y a-t-il qu'une seule manière de prier en tout temps? Ou bien il y a une manière parfaite en temps normal et un minimum sur lequel on peut se restreindre dans certaines conditions? Ça, c'est une bonne question. Au prochain cours, on va développer ce thème. Donc, j'ai posé les questions importantes et au prochain cours, inshallah, on va développer ce thème très important parce qu'on est tous concernés, je le pense. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين